France Inter.
C'est l'heure du journal. Bonsoir Corinne Audouin.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. Il avait fui les talibans en Afghanistan. Il est tombé sous les balles d'un terroriste sur le marché de Noël de Strasbourg en 2018. Témoignage poignant aujourd'hui au procès de cet attentat de la famille de Kamal Narband, l'une des 5 victimes du tueur. Le tueur lui-même avait été abattu par la police. Nous serons en direct du palais de justice de Paris avec Charlotte Piret dès le début de ce journal. L'actualité, c'est aussi la date de ce vendredi 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Reportage dans la manifestation parisienne avec des militantes solidaires des femmes du monde entier. Nous irons aussi au Portugal qui s'apprête à voter ce week-end et les accusations de corruption attisent le vote pour l'extrême droite. Le gouvernement relance MaPrimeRénov, simplification annoncée pour le dispositif d'aide à la rénovation énergétique. Les requins de grande profondeur menacés par la surpêche, explication à suivre de Célia Kiret. Et puis à 2 jours des Oscars, on prendra des nouvelles de l'équipe d'Anatomie d'une chute avec une productrice heureuse mais épuisée. Et au téléphone sonne, Claire.
Eh bien, on va parler manga au téléphone sonne et plus précisément Dragon Ball, la série à succès d'Akira Toriyama qui vient de mourir à l'âge de 68 ans. Les BD de ce japonais ont connu un succès phénoménal un peu partout dans le monde. On essaiera de comprendre pourquoi, que ceux qui se passionnent pour cette série nous appellent pour nous en dire plus et que ceux pour qui cet univers est inconnu restent à l'écoute. On vous expliquera tout avec nos spécialistes et notre correspondante au Japon, 01 45 24 7000.
France Inter.
Jour de larmes aujourd'hui au procès de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg. C'était le 11 décembre 2018. Shérif Shekat tuait 5 personnes et en blessait 11 autres avant d'être abattu par la police 2 jours plus tard. Depuis ce matin, au palais de justice historique de Paris, sur l'île de la Cité, témoins, survivants et proches des victimes se succèdent à la barre. Bonsoir Charlotte Piret.
Bonsoir.
Vous suivez pour nous ce procès devant la cour d'assises spéciale de Paris. Et cet après-midi, la famille de Kamal Narband est venue livrer un récit poignant.
Sa veuve, longs cheveux noirs, tailleur foncé, replonge la première dans cette soirée du 11 décembre. Une soirée que leurs 3 enfants de 2, 5 et 6 ans attendent depuis une semaine. Kamal est un habitué des longues journées de travail, surtout depuis qu'il a ouvert son propre garage. Mais il a promis qu'il rentrerait tôt ce soir-là pour les emmener au marché de Noël. Il était très heureux de passer du temps avec nous, se souvient Sagar. Il tenait notre fille par la main, nos fils marchaient devant. L'ambiance est légère, ils hésitent sur le restaurant à choisir. Quand soudain, un homme a touché mon mari à l'épaule. Je pensais qu'il allait lui demander une direction, raconte Sagar. Mais il est tombé, j'ai vu le sang sur son front et mes enfants blêment. Kamal décède 2 jours plus tard dans ce même hôpital où j'ai mis nos 3 enfants au monde. Aujourd'hui, la petite dernière a 8 ans, suite et basket rose, un bandeau dans les cheveux. Elle me demande régulièrement quand papa reviendra, pleure Sagar. Pour son anniversaire, elle a mis une robe qui tourne et attendait qu'il arrive. Quand sa mère vient se rasseoir sur les bancs des parties civiles, la fillette l'enlace avec ses frères, petits bras autour du cou, comme pour la réconforter après avoir livré ce si douloureux récit.
Et avant de tomber sous les balles du terroriste, Kamal Narband avait fui la guerre en Afghanistan, Charlotte.
Et cet homme, ingénieur agricole, avait tout recommencé en France. Sa nièce Feroza est venue témoigner elle aussi à la barre.
C'était la période où les talibans prenaient le pouvoir, donc mourir sous les décombres, sous des bombes, sous une balle, c'est très fréquent là-bas. Il a été l'élément déclencheur, il a quitté l'Afghanistan, il a fait en sorte que ma grand-mère et mon grand-père le suivent. Nous avons voulu fuir le contexte géopolitique de l'Afghanistan pour ne pas les vivre, mais au final nous avons été rattrapés par les balles en France même. Et on se demande comment c'est possible d'en arriver à là, en Europe.
Voilà le témoignage de la nièce de Kamal Narband. Merci Charlotte Piret pour ce récit. Depuis le palais de justice de Paris, le procès se poursuit jusqu'au 5 avril.
Le 8 mars, une date symbolique pour un geste fort. La liberté de recourir à l'IVG est désormais scellée dans la Constitution.
C'était à la mi-journée, place Vendôme à Paris, devant le ministère de la Justice, aux côtés d'Emmanuel Macron. Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, qui n'a jamais si bien porté son nom, a fait tourner la presse métallique pour sceller la loi constitutionnelle, adoptée lundi dernier par le Parlement, réuni en congrès, et qui garantit donc la liberté pour toutes les femmes d'avoir recours à l'IVG. Une cérémonie marquée par la Marseillaise, revisitée par Catherine Ringer, en ces termes, aux armes citoyens, citoyennes. Et en cette journée internationale des droits des femmes, on manifestait aujourd'hui un peu partout dans le monde, et dans 200 villes de France, au cœur du défilé parisien. Cet après-midi, beaucoup de collectifs féministes pour représenter les femmes du monde entier et porter leur combat. C'est un reportage de Laurent Kramer.
faire changer les mentalités et faire appliquer le droit bien au-delà de l'IVG. Louise et Maya dénoncent toutes les violences faites aux femmes.
Toutes ces violences qu'on dénonce aujourd'hui, elles n'appartiennent pas à une époque qui est révolue. C'est encore tellement présent que le nombre de personnes présentes aujourd'hui montre ça aussi. L'IVG dans la Constitution, c'est génial, mais à un moment donné, faut réellement que les choses changent et qu'elles n'ont pas encore totalement changé.
Violence sexuelle, féminicide ou tout simplement sexisme au travail. Léa, 25 ans, est venue manifester avec ses collègues.
Oui, il y a encore du boulot. Là, je suis avec une collègue aujourd'hui et c'était important de venir aussi entre collègues parce que nous, on le voit au quotidien, ce que c'est que d'être une femme dans le monde du travail et... On a toutes des petites anecdotes sur des moments hyper sexistes qu'on a vécu dans ce milieu-là, donc c'est pas gagné encore.
Mais il y a 55 ans, les slogans étaient les mêmes, rappelle Christiane.
Je me suis souvenue, quand la première fois que je me suis syndiquée, dans les années 69, on criait « travail égal, salaire égal ». On en est encore là ? C'est dingue !
À la CGT, la secrétaire générale Sophie Binet demande que des sanctions soient désormais appliquées pour les entreprises qui n'appliquent pas l'égalité salariale entre les hommes et les femmes.
Et petit rappel, à temps de travail identique, le salaire moyen des femmes est inférieur de 15% à celui des hommes. C'est ce qu'indique une étude de l'INSEE parue aujourd'hui. Et à propos d'égalité, les résultats du premier index de l'égalité professionnelle dans la fonction publique ont été dévoilés aujourd'hui. Avec une note de 95 sur 100, le ministère de la Culture obtient le meilleur score. Les services du Premier ministre peuvent nettement mieux faire, avec 76 sur 100. Les droits des femmes avancent et cela suscite encore des réactions violentes. Aujourd'hui à Lille, les opposants à l'IVG ont tagué le local planning familial, le local du planning familial. À La Roche-sur-Yon, une statue de Simone Veil a été vandalisée. Marius Delaunay de France Bleu Loire-Océan.
La scène a surpris beaucoup de passants. Des poupées recouvertes de peinture couleur sang et des affiches anti-IVG disséminées tout autour de la statue de Simone Veil à deux pas de la place Napoléon, la place centrale de La Roche-sur-Yon.
Beaucoup de gens sont choqués de la méthode et des symboles et sont assez écœurés par tout ça.
Le maire Luc Boire a reçu beaucoup de messages de témoignages d'habitants. Il faut dire que l'acte de vandalisme n'est pas passé inaperçu. La statue de Simone Veil se trouve à l'entrée de la place du même nom, en plein cœur du centre-ville, devant le monument aux morts. On retrouve aussi à quelques dizaines de mètres de là des jeux pour enfants.
Nous avions déjà des parents ou des nounous avec des jeunes enfants sur la place pour profiter des jeux ou simplement en balade. Et évidemment, c'est un symbole terrible que de présenter des poupées de bébés ensanglantées au pied de la statue.
Et les services de la mairie ont finalement enlevé les affiches, tout nettoyé dans la matinée. Ce n'est pas la première fois qu'ils sont sollicités. À plusieurs reprises, déjà, la statue s'est retrouvée couverte de graffitis. Elle avait aussi été aspergée de peinture bleue une semaine après son inauguration en 2019.
Et Simone Veil, qui, on le rappelle, avait porté la loi légalisant l'IVG en 1975. Et enfin, à retrouver sur radiofrance.fr une sélection d'émissions autour de la lutte des femmes pour leurs droits et des portraits de pionnières. Ça va d'Olympe de Gouges à Olivia, 27 ans, mécanicienne en Lorraine.
Au Proche-Orient, les négociations pour un cessez-le-feu sont toujours dans l'impasse.
À 3 jours du début du Ramadan, il n'est pas sûr qu'Israël et le Hamas parviennent à un accord, même pour une trêve temporaire. Les pourparlers doivent reprendre au Caire la semaine prochaine. Le Hamas annonce aujourd'hui qu'il ne fera aucun compromis sur ses exigences d'un cessez-le-feu définitif. C'est ce que dit le porte-parole de sa branche armée dans un message vidéo. Abu Obeida appelle par ailleurs les Palestiniens à se mobiliser et à affluer durant le Ramadan à la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem. En attendant, la situation humanitaire empire de jour en jour dans le territoire palestinien de Gaza. Menacé de famine, l'Union européenne et les États-Unis annoncent l'ouverture prochaine d'un corridor maritime entre Chypre et Gaza pour acheminer de l'aide humanitaire. Difficile dans ces conditions de se projeter dans l'après. Un futur à 2 États est-il possible ? À Genève, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme met en garde. L'expansion des colonies israéliennes dans les territoires occupés risque, Nathanaël Charbonnier, de rendre impossible la création d'un État palestinien.
Le transfert de population d'Israël vers les territoires occupés est considéré par l'ONU comme pouvant entrer dans ce qu'on qualifie de crime de guerre. et le rapport de préciser les choses en expliquant que la responsabilité des colons peut être engagée, les faits concernés toucheraient la période de novembre 2022 à octobre 2023. Avec un constat, ce sont plus de 24 000 unités de logement qui ont été construites au sein des colonies déjà existantes en Cisjordanie, du jamais vu depuis 2017. Et le haut commissaire de s'inquiéter, lui, des projets de colonies à venir. Israël parlait cette semaine, par exemple, de la construction de près de 3500 logements supplémentaires dans les régions d'Ephrate ou encore de Kedar. Mais les crimes, ce ne sont pas que les constructions de nouveaux logements. C'est aussi, explique l'ONU, les expulsions forcées, la non-délivrance de permis de construire ou la démolition de maisons, ainsi que les restrictions de mouvement pour les Palestiniens. Enfin, un chiffre, le rapport estime à près de 500 000 le nombre de personnes qui vivent dans des colonies jugées illégales au regard du droit international.
Nathanaël Charbonnier. Au pouvoir depuis 2015, les socialistes jouent gros ce week-end au Portugal. 2 ans après le dernier scrutin, les Portugais retournent aux urnes. Élections législatives anticipées après la démission du Premier ministre António Costa. Plusieurs membres de son gouvernement sont mis en cause dans des affaires de corruption. Des soupçons qui servent de carburant aux candidats du parti d'extrême droite, Chega, comme l'a constaté Julie Pietri, notre envoyée spéciale à Porto.
Mais non, ce n'est pas difficile pour les socialistes de faire campagne. Nuno Oliveira et Alice Maria, militants PS, pensent la même chose. Ces accusations de corruption sont injustes. Je suis très optimiste, on va gagner. La démission du Premier ministre António Costa, la mise en examen de son chef de cabinet, de son ministre des infrastructures aussi, soupçonné de malversation et trafic d'influence, l'extrême droite fait campagne là-dessus. Immense panneau, le Portugal a besoin d'un nettoyage dans les rues de Porto.
Le gouvernement d'António Costa a tombé parce que la corruption.
Ricardo Jorge Pinto, professeur en communication politique.
Chega a entendu que corruption peut-être serait un thème pour capter l'attention des électeurs, surtout les électeurs plus radicaux, vote de proteste.
Jorge Sequeira est le président du Parti Socialiste de la région d'Aveiro, près de Porto.
Le Parti Socialiste, quand il est au gouvernement, assure qu'il y a un pouvoir judiciaire indépendant. Et on défend l'application de la loi pour tous.
Lui préfère mettre en avant des mesures prises par les socialistes. Augmentation forte du salaire minimum, crèche gratuite. Le pays, en quasi-faillite il y a 10 ans, est aujourd'hui en excédent budgétaire. Sa dette a diminué. Mais les investissements ont aussi manqué dans l'éducation, par exemple, ou la santé.
Julie Pietri, de la rédaction internationale de Radio France. Élection dimanche au Portugal. Le chef de la diplomatie ukrainienne s'inquiète d'une aide au compte-gouttes de la part des Occidentaux. Pour ce ministre, des livraisons régulières de matériel militaire permettraient d'éviter une extension de la guerre hors d'Ukraine. Et puis les États-Unis viennent de connaître leur hiver le plus chaud jamais enregistré. C'est ce qu'annonce l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique. La moyenne des températures pendant l'hiver météorologique aux États-Unis hors Alaska était de 3,1 degrés Celsius. Beaucoup trop chaud donc.
Et en France, Corinne, la rénovation énergétique est en panne.
Oui, ma prime rénov ne fait plus recette, moins 40% de demandes depuis janvier pour ce dispositif d'aide à la rénovation énergétique. Alors 2 mois après l'avoir sérieusement rogné, le gouvernement revoit sa copie. Cet après-midi, les ministres du Logement et de la Transition énergétique ont reçu les deux fédérations qui regroupent les professionnels du secteur du bâtiment. Bonsoir, Servane de Pastrin.
Bonsoir.
Du service économie et sociale de France Inter. Alors la réunion a été constructive avec des propositions immédiates pour relancer les chantiers.
Oui, et du côté de la Fédération française du bâtiment, c'est le soulagement. Olivier Salleron en est le président.
Au global, nous sommes satisfaits. La grande victoire, et en tout cas la grosse simplification, c'est sur le monogeste rendu ouvert sur l'ensemble des ménages et puis surtout la non-obligation du DPE.
Alors les monogestes, c'est-à-dire les rénovations simples comme les poses de fenêtres, avaient été supprimées du dispositif MaPrimeRénov début janvier. Ils sont donc désormais rétablis. Un DPE, un diagnostic énergétique, était lui obligatoire lors de ces travaux de rénovation simple. Il ne sera plus nécessaire. L'urgence maintenant, c'est que ces mesures rentrent en application, selon Olivier Salleron.
Nous avons demandé au plus vite, c'est-à-dire dès avril, maxi mai, que ça puisse être mis en place parce que nos artisans et nos entreprises n'ont plus de dossiers et de devis qui sont acceptés. On va suivre les dossiers minute par minute, jour par jour avec les ministères.
Une demande n'a pas pu être exaucée, elle concerne les accompagnateurs Rénov obligatoires lors de recours à MaPrimeRénov et trop peu nombreux. La Fédération française du bâtiment souhaitait qu'il ne soit nécessaire que lors de travaux importants ou particulièrement coûteux. Ce dispositif ne devrait pas être modifié.
Merci Servane de Pastre. La RATP reste dans le rouge en 2023 avec 109 millions d'euros de pertes nettes, deuxième année consécutive en négatif en raison notamment de la hausse des prix de l'énergie. Des employés du groupe Altice dans le collimateur de la justice, le parquet financier a ouvert une enquête sur des soupçons de corruption, fraude fiscale et blanchiment. Le groupe de télécom, maison mère de SFR et des médias BFM et RMC, est déjà visé par des investigations au Portugal pour les mêmes infractions. L'été dernier, le cofondateur d'Altice, l'homme d'affaires portugais Armando Pereira, avait été arrêté, soupçonné d'avoir mis en place un réseau de fournisseurs douteux pour détourné d'importantes sommes d'argent. 6 mois de prison avec sursis pour le commissaire Rabah Souchi. C'est lui qui avait ordonné la charge, qui avait gravement blessé une manifestante, Geneviève Leguet. Alors âgée de 73 ans, c'était à Nice en 2019. Le commissaire annonce faire appel de la décision. Alerte sur les grands fonds marins. Les requins et les raies qui nagent en eau profonde sont menacés. C'est ce qu'indique un article paru dans la revue Science. Un requin de grande profondeur sur 7 risque de disparaître en raison de la surpêche céliaque raie, car sa viande et son foie sont particulièrement recherchés.
Les raies et les requins sont les vertébrés marins les plus sensibles à la surpêche. Le commerce international de requins n'est pas nouveau, mais il augmente. Nicolas Ziani, chercheur au groupe Phocéen d'études sur les requins, s'inquiète notamment des nouveaux usages d'huile de foie.
Les requins et les espèces cartilagineuses de profondeur sont ciblés depuis fort longtemps. Au XXe siècle, au début du XXe siècle, on utilisait l'huile du foie pour combustible, pour éclairer par exemple dans les rues. Actuellement, les pêcheries internationales, ça va beaucoup dans les cosmétiques pour le squalène, qui est une huile qui est contenue dans le foie du requin ou des raies pour la flottabilité.
Or, ces requins qui vivent à plus de 200 mètres sous l'eau ne se reproduisent pas facilement. Et s'ils disparaissent, ce sont de grands prédateurs en moins pour l'écosystème. Mauvaise nouvelle pour la pêche et pour la bonne santé de l'océan. Le requin du Groenland, par exemple, peut vivre 150 ans. Il mérite d'être préservé, tout comme le squale chagrin de l'Atlantique.
On peut faire la comparaison avec les forêts centenaires qu'on abat et qui sont extrêmement longs à se régénérer et qui ne peuvent pas se régénérer tout simplement.
Selon les auteurs de cette étude, il faut réguler le commerce d'huile de foie de requins, comme pour les ailerons. Ces requins ne peuvent plus supporter une telle pression de pêche.
Célia Kiré, spécialiste environnement de France Inter. Attention à la pluie et au risque d'inondation demain. L'Ardèche, le Var et les Alpes-Maritimes sont placés en vigilance orange. On attend jusqu'à 250 millilitres de pluie, millimètres de pluie cumulés sur les Cévennes ardéchoises. Des nouvelles de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Ce sera le 26 juillet, ça on le savait, à 19h30 pour profiter au maximum de la lumière naturelle et du coucher du soleil pour cette parade sur la Seine qui accueillera 326 000 spectateurs sur les quais. Les organisateurs sont plutôt confiants pour ces JO. Les préavis de grève déposés notamment par la CGT dans la fonction publique. Nous n'avons pas de crainte, dit un responsable du CIO en visite dans la capitale. De son côté, la CFDT ne déposera pas de préavis à ce stade pendant les Jeux Olympiques. Aucune envie de gâcher ce moment festif, a dit sur France 2 sa dirigeante Marie-Lise Léon.
Le sprint final pour Anatomie d'une chute avant la cérémonie des Oscars.
Anatomy of a Fall, en anglais, nommé dans 5 catégories, dont meilleur film et meilleure réalisation pour Justine Triet, aux côtés, excusez du peu, de Christopher Nolan et Martin Scorsese. Toute l'équipe du film, y compris le chien, s'est envolée pour Los Angeles. Quel que soit le résultat, lundi matin, ce sera la fin d'une aventure commencée il y a 10 mois avec la projection du film à Cannes, où il a remporté, on le rappelle, la Palme d'Or. Écoutez la productrice du film Marie-Ange Luciani au micro de notre envoyé spécial à Hollywood, Alexis Demeyer.
On sent que c'est bientôt la fin, on a décidé d'en profiter pleinement. Il y a aussi la sensation de boucler une boucle. C'est vrai qu'on se dit waouh, comment on va redescendre de tout ça. Et voilà, on nous annonce quand même que c'est pas tout à fait fini parce que la Chine sort le film le 27 et je partirai là en Chine. Chine avec Justine. Donc il nous reste encore des petites choses à faire ensemble. Mais voilà, oui, c'est très très émouvant. Ça va être étrange, même pour chacun d'entre nous, parce qu'on est vraiment très très ensemble. On a beaucoup voyagé ensemble, on a beaucoup défendu le film ensemble, et ça a créé comme ça une famille. Ça a été, je crois, une aventure en tout point assez exceptionnelle, parce que unique, parce que c'était une première fois pour nous tous, et qu'on a eu beaucoup d'émotions fortes qu'on a partagées ensemble. Mais ça va être bien aussi de reprendre une vie normale, de continuer pour Justine de recommencer à écrire, pour nous de continuer de produire nos films, de se replonger un peu maintenant dans la suite. Et ça, c'est important aussi.
Marie-Ange Luciani avec Alexis Demeyer qui nous fera vivre en direct la cérémonie des Oscars dans la matinale de lundi. Et puis pour terminer ce journal, un mot d'une autre célébrité. Nathalie Portman, l'actrice américaine, a divorcé du chorégraphe français Benjamin Millepied. C'est ce qu'annoncent aujourd'hui plusieurs médias américains.
Et ben voilà, comme ça on sait tout. Merci beaucoup. C'était Corinne Audouin. On va prendre des nouvelles du temps.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques, Euromaster garantit votre mobilité et préserve votre budget.
Bonsoir Elodie Calac.
Bonsoir à tous.
Une fin de semaine très agitée dans le sud-est.
Oui, les pluies soutenues se décalent vers l'est cette nuit, mais une nouvelle perturbation pluvieuse est attendue sur le sud-ouest. Demain matin, on la retrouvera sur l'ouest et en Méditerranée. Elle progressera vers la région parisienne et la Bourgogne l'après-midi. Ce sera vraiment très agité sur le sud-est avec beaucoup de vent, des pluies soutenues, en particulier sur les Cévennes, puis vers la Côte d'Azur entre l'après-midi et dimanche matin. D'ailleurs, une vigilance orange a été déclenchée pour demain. Sur les massifs du sud, il neigera en quantité autour de 1200 mètres. Attention au risque d'avalanche. Prudence aussi sur le littoral. De fortes vagues sont attendues. On trouvera quand même du soleil demain matin entre le nord de la Seine et le nord-est. Et puis de la Bretagne vers le sud-ouest et le Roussillon. Retour de petites éclaircies l'après-midi, mais ce sera instable avec des averses parfois orageuses.
Et un petit mot des températures ?
3 à 11 degrés le matin, ça monte un peu. Et puis l'après-midi, 10 à 17, un peu comme aujourd'hui. Dimanche, le temps deviendra plus changeant avec des averses plus nombreuses sur la Nouvelle-Aquitaine et aussi sur la Provence et la Côte d'Azur avec parfois un orage.
Merci beaucoup Élodie Calac de Météo France.